Cours de philosophie première, la personne humaine, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 18 février 1999 à Saint-Jodard.
Le passage de la recherche de la vérité qui structure notre personnalité. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, objectivement, dès que vous vous atteigniez la substance. Peut-être d'un mode très imparfait, puisque la réalité qui est autour de vous n'est peut-être pas substantielle, mais elle dépend de la substance. Donc, objectivement, il y a quelque chose de substantiel, mais selon une manière d'exister très imparfaite, qui est intentionnelle. C'est pour ça que je crois qu'on doit dire que c'est un support intentionnel, donc intellectuel, intentionnel à l'immortalité. Je ne peux pas, à partir de là, vraiment prouver l'immortalité. Je peux simplement poser le problème. Vous voyez, le support intentionnel permet l'interrogation. Et je crois que à partir de là, on pose l'interrogation. Mon intelligence, est-ce que, en raison de son intentionnalité substantielle, mon intelligence n'exige-t-elle pas une âme immortelle? Voilà l'interrogation. Et c'est vraiment le support, puisque c'est l'interrogation. L'interrogation est un support qui ne peut pas conclure parfaitement. Et c'est comme une échelle, vous savez, qui monte et qui n'a pas de support en haut. Le support est en bas. Toujours impressionnant de voir ça. Montez pas tout en haut, parce que ça vous dégringoler. Et c'est ce qu'on fait. Quand on reste là, on dégringole dans l'ontologisme, qui est la chute la plus radicale de l'intelligence. À penser à l'échelle. Peut-on découvrir l'immortalité de l'âme avant d'avoir atteint l'existence de l'être premier, créateur, père de l'âme? Je dis non. Parce que, justement, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on découvre ce qu'est mon intelligence. Revient d'une réalité substantielle qui garde la nostalgie profonde de cette réalité substantielle et qui ne l'atteint que selon un mode intentionnel. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-on pas affirmer l'immortalité de l'âme dans la lumière de la substance et de l'acte? Parce que la substance et l'acte sont saisis selon un mode intentionnel. La substance, c'est un principe. Vous n'avez jamais vu, et vous ne saisirez jamais directement. Vous n'expérimentez pas un principe. Ce serait foudroyant. Si vous expérimentez un principe, vous connaîtriez directement Dieu. Un principe, on l'infère. L'intelligence le saisit grâce à une abstraction. Le principe n'existe que dans mon intelligence comme principe. Il existe dans la réalité. Mais dans la réalité, il existe selon un mode qui n'a plus l'universalité du principe. Il existe selon une réalité contingente. Pourquoi ne peut-on pas affirmer l'immortalité de l'âme dans la lumière de la substance et de l'acte ? On pose interrogation dans la lumière de la découverte de la substance et de l'acte. Est-ce que parce qu'on n'a pas atteint un objet de l'intelligence qui est séparé de la matière, c'est-à-dire l'être premier? Oui, parce que vous atteignez cette réalité par l'intermédiaire d'un principe. Mais vous saisissez au terme, par le principe, une réalité substantielle. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Et cet être premier est acte pur, et substance pure, substance simple. Votre intelligence saisit à ce moment-là une réalité séparé de la matière, immortel. Il y a donc une connaturalité profonde. Et c'est pas seulement par l'appréhension, c'est un jugement d'existence. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Quand l'intelligence pense cela, elle découvre son immortalité. Tandis qu'elle ne le découvre pas quand elle saisit le principe qui lui aussi est immortel. Mais l'immortalité du principe n'est pas la même que l'immortalité de l'être premier. Le principe est immortel intentionnellement, c'est-à-dire dans mon intelligence. Il a un fondement réel. Il a un fondement réel. Il existe dans la réalité. La substance existe dans la réalité. L'acte existe dans la réalité. Et dès qu'il existe dans la réalité, son comment qu'il fait exister et limiter. Tandis que lorsque je pose l'existence d'un être premier, son comment est infini, est immortel. Et c'est le passage de l'appréhension au jugement. Autrement dit, seul le jugement me fait découvrir la réalité. L'appréhension me fait découvrir les intentionnalités. Et l'erreur de l'ontologisme, c'est de confondre les deux. Le Saint-Père, dans Fides et Ratio, de l'homme comme celui qui recherche la vérité et qui vit de croyance. Pouvez-vous préciser le rapport entre ces deux aspects? Peut-on dire qu'il y a un lien de nécessité entre les deux? Ce lien de nécessité est-il réciproque? Deux affirmations. La recherche de la vérité est quelque chose que je découvre à partir des principes. Je saisis la vérité au sens fort que quand je saisis un principe. Visage, un visage intérieur, un visage transcendant. Elle a deux visages, la vérité. Le visage intérieur demeure intentionnel. le visage extérieur, transcendant, touche la réalité. Or, je ne peux pas saisir toute vérité immédiatement. Beaucoup de vérité est la plus grande. Je la saisis immédiatement. Puisqu'il y a une démonstration a posteriori de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une induction. Dieu n'est pas au terme d'une induction. Je crois que c'est l'erreur, vous voyez, de Saint Anselme, fondamentalement. Pour Saint Anselme, Dieu est au terme d'une induction. Le nom Dieu implique l'existence. Donc Dieu existe. Intentionnellement, c'est très juste. Mais ce n'est pas la vérité. Mais il y a un abîme entre la recherche de la vérité et puis la croyance. C'est parce que toute vérité ne m'est pas donnée immédiatement au terme d'une induction. Ou tout simplement au terme de mon expérience. Quand je touche cette table, j'ai l'évidence qu'elle existe. Je n'ai pas besoin de démonstration. Je dis, ça existe. Et si vous qui êtes là, oh non, ça n'existe pas, vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez pris, c'est une hallucination. Cette table n'existe pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est pris par l'hallucination, c'est ça. Je vous dis, allez, venez toucher cette table, vous verrez bien. Ce n'est pas une hallucination. Donc, c'est une évidence immédiate. Au terme d'une expérience, ceci est. Vous pouvez aussi saisir un principe au terme de l'induction. Et vous pouvez saisir une réalité transcendante au terme d'une démonstration a posteriori. Vous êtes d'accord? C'est trois moments. Or, la réalité que je saisis au terme d'une démonstration a posteriori implique donc un métaxu, un intermédiaire, qui est un principe que je peux très bien ne pas saisir. Mais un ami, une personne plus développée que moi, plus évoluée que moi, peut me certifier, c'est bien cela. Même si vous ne le saisissez pas, ou que vous le saisissez en tremblant, je vous disais ça. Donc, ça, c'est la croyance. Donc, la croyance est un moyen pour moi de rechercher la vérité. Mais il y a deux moyens de saisir la vérité, la recherche de la vérité. Il y a deux moyens. Il y a le moyen évidence. L'évidence me met en contact direct de la vérité. Mais ça, c'est immédiat. Sans intermédiaire. Cette évidence m'est donnée de deux manières. L'expérience, l'induction. Des deux manières, je saisis immédiatement la vérité. Il n'y a pas d'intermédiaire. Autrement dit, c'est l'évidence. Puis deuxièmement, une évidence médiate. Grâce à l'autorité. Il y a une évidence. Grâce à l'autorité. entre parenthèses, il y a l'évidence immédiate, démonstration a posteriori, a priori. Il y a deux manières d'évidence immédiate. A posteriori, par les effets, a priori, par le principe. Mais c'est une démonstration. Je saisis l'évidence, la vérité, immédiatement. Mais c'est toujours la vérité que je saisis. Mais immédiatement. Il y a un médium. Il y a deux types de métaxus. Un métaxus de la démonstration a posteriori, c'est l'effet. Ce sont les effets. Et là, c'est la démonstration. C'est la définition. C'est la définition. J'ai la démonstration a priori. Je ne peux pas saisir l'évidence de Dieu immédiatement. Je la saisis uniquement a posteriori. Et ça me met en face de la vérité absolue. Une vérité simple en laquelle l'intelligibilité et l'existence ne font qu'un. C'est ce que saint Anselme met en lumière très fortement. Mais saint Anselme oublie, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est père, il oublie que cela, je l'atteins par une démonstration a posteriori. Et il voudrait que ça se fasse directement par le nom de Dieu. C'est très beau. C'est la hâte du Père à l'égard de son fils qui tremblote. La hâte du Père. Il dit, mais non, mais regarde le nom de Dieu, ça implique l'existence, quoi. C'est très, très cru. Et c'est ça que ça permet en lumière dans son encyclique. Alors, puisque c'est médiat, je peux saisir le métaxu par mon expérience. Je peux saisir le métaxu par l'autorité d'un autre. Un autre intervient. Tu n'as pas vu ça, toi, mais moi je l'ai vu. Et je t'affirme, je l'ai vu. Je me porte garant de ton adhésion. C'est bien ce qui se passe pour la foi. Dieu se porte garant de ce qu'il m'affirme. Je ne l'ai pas vu, moi. Mais je m'appuie sur l'autorité de Dieu. Donc, la croyance. Toute croyance implique l'autorité de quelqu'un. La foi surnaturelle implique l'autorité de Dieu. Alors vous pouvez comprendre ce qu'il est dit ici. Parle de l'homme comme celui qui recherche la vérité et qui vit de croyance. L'homme vit constamment de croyance dans l'ordre pratique. Vous comprenez très bien que ma vie prend un autre sens si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Or, j'ai beaucoup de peine à faire de la métaphysique. Donc, je me sers de l'autorité de personnes remarquables. Aristote, Platon, Thomas d'Aquin. Par la croyance, j'adhère. Et là, j'ai des autorités fermes. ça l'avantage de l'autorité. C'est que ça vous fait gagner du temps. Mais ça ne donne pas la solution dernière. C'est une solution d'attente. La solution de la croyance est une solution d'attente. Un jour, je verrai. Je verrai Dieu. À ce moment-là, je ne me poserai plus la question de la démonstration a posteriori. J'en sourirai. C'est comme j'étais bête de ne pas comprendre. Quand vous verrez Dieu face à face, mais comme j'étais bête de ne pas piger la métaphysique, c'est si simple. Mais dans la lumière de Dieu, c'est une simplicité absolue. Mais je n'ai pas la vision de Dieu. Je m'appuie sur ce qu'il me dit. Alors la croyance. Mais regardez bien ce petit tableau, ça vous aide à mieux comprendre les diverses manières de recherche de la vérité. Tout cela cherche la vérité, mais différemment. Et différents sentiers, vous voyez, au fond, la vérité a 1, 2, 3, 4, il y a 4 routes. 4 autoroutes. Puisque c'est la recherche de la vérité, c'est une autoroute, c'est vous-même qui découvrez cette route. Et vous découvrez les autorités compétentes. Alors, je ne comprends pas ce qu'apporte en propre le regard de la philosophie première sur l'amour d'amitié. Donc, tournant, ça c'est la vérité. Maintenant, le point de vue de l'amour d'amitié. L'autorité n'existait pas dans la recherche de la vérité. Je comprends que l'amour d'amitié ne me servirait à rien. Hein? C'est ça que vous oubliez là. L'ami est pour moi une autorité magnifique. Charité surnaturelle, que tous mes frères sont mes amis. Quand je reconnais, grâce à mon expérience, que tel ou tel frère sont plus proches de moi, sont des amis. Ce frère, en raison de l'amitié, est l'autorité la plus magnifique qui soit. Je ne comprends pas, alors il faut comprendre, ce qu'apporte en propre le regard de la philosophie première sur l'amour d'amitié comme dimension de la personne humaine par rapport à ce qu'on peut en dire en éthique. Qu'est-ce que le métaphysicien découvre en propre de cette expérience humaine ? C'est qu'elle existe. C'est quand même quelque chose. C'est ça qu'apporte la métaphysique. C'est que l'amour d'amitié, parmi mes expériences affectives, j'en ai beaucoup, surtout quand je rêve, surtout quand je suis dans la détresse. Alors, comme c'est délicieux d'habiter avec ses frères. C'est dit même dans le psaume. Et là, c'est pas un rêve, puisque c'est l'ordre surnaturel, l'ordre divin. Le rêve devient une réalité par la foi. Mais s'il n'y avait pas la foi, la métaphysique est là, qui me dit que l'ami existe et que j'ai un jugement d'existence différent. j'ai un jugement différent du point de vue de l'existence entre ceci et je suis. Je crois que tous, vous acceptez la différence entre ces deux jugements d'existence. Or, l'ami est du côté du je suis. C'est la troisième expérience de l'existence. Un, deux, deux bis. Je suis, et l'ami est un autre moi-même. Tu es. Et le tu es, l'ami, c'est ici dans l'expérience de l'amitié. Donc voyez, l'amitié apporte une troisième dimension à l'exister. Trois essais. Ceci est, je suis l'ami. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Je crois que vous ne pouvez pas nier ça. Alors, par l'amitié, j'ai une nouvelle expérience de l'exister. Nous l'avions vu l'année dernière à propos des voies d'existence de Dieu. Je vous disais que l'amitié nous ouvrait une nouvelle voie pour l'existence de Dieu. Parce que l'ami, c'est le debis, c'est le prolongement de je suis. Je suis, et je suis dans le cœur de mon ami. Et tout ce que mon ami fait, et je le fais avec lui. Alors, je continue pour que vous voyez bien ça. C'est tellement important. Je ne comprends pas ce qu'apporte en propre le regard de la philosophie première sur l'amour d'amitié. Troisième dimension de l'aïcité. Ce qu'il apporte en propre, comme dimension de la personne humaine, par rapport à ce qu'on peut en dire en éthique. En éthique propre, je ne regarde pas l'exister, je regarde l'ami. Je l'aime, il m'aime, nous nous aimons. Le regard métaphysique, ah, c'est que l'ami m'apporte cette nouvelle dimension de l'exister. Et c'est énorme. Qu'est-ce que la métaphysique découvre en propre de cette expérience humaine? La métaphysique découvre que les expériences de mon ami, ce sont mes expériences. Toujours avec le métaxu de l'ami. C'est que mon ami ne peut pas me tromper. Puisque mon ami ne peut pas me tromper, mais il prolonge mon expérience. Quand j'ai un ami qui a été sur l'Himalaya, j'y étais. Quand j'ai un ami qui a été dans la lune, j'y étais. Quand mon ami est un saint, j'y étais. C'est extraordinaire ça. Vous ne pouvez pas nier. Troisième dimension de l'exister. Autrement, tout ce que dit Aristote là-dessus est de la blague, alors. Hein. Un autre moi-même, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, un autre moi-même? Je suis. Alors vous allez dire que la métaphysique ne regarde pas le je suis. Ouais, elle le regarde fameusement. C'est la scolastique qui l'a coupé. La scolastique a regardé uniquement le jugement d'existence du côté logique. Et pas du côté je suis. La troisième dimension maintenant, je suis. Mon ami existe. Et par là, j'ai une nouvelle dimension qui se donne à moi. Alors qu'est-ce que la métaphysique découvre en propre de cette expérience humaine? Attends, j'espère que vous voyez. Mais je sais que c'est quand même pas la même chose métaphysiquement. C'est l'autre. Mais c'est un autre qui, grâce à l'amour, est moi. Alors voyez, tous les équivoques qui peuvent exister. Parce que l'intentionnalité de mon amour pour mon ami n'est pas la réalité. Sauf quand c'est l'amour à l'égard du Christ et de Dieu. Là, je passe dans un domaine surnaturel. Mon amour à l'égard du Christ et à l'égard de Dieu, cette amitié de la charité, est substantielle. Je ne le vis pas ici sur la terre, dans cette évidence, mais je sais que cet amour est substantiel. Tandis que dans l'amour d'amitié, je vois comment, grâce à l'amitié, je peux me servir de tout ce que mon ami dit. Mais je garde toujours la différence, c'est que l'existence de mon ami n'est pas mon existence, métaphysiquement parlant. D'où la différence entre la métaphysique et l'éthique. Mais entre l'éthique et la métaphysique, il y a un passage. Parce que l'expérience de mon ami est d'une certaine manière mon expérience. Qu'est-ce que la découverte de la substance et de l'acte me fait connaître de mon ami? Beaucoup. C'est qu'il est une personne. Et c'est une découverte fameuse de découvrir dans l'ami qu'il est une personne. Ce n'est pas un jouet. Mon ami n'est pas un moyen que j'utilise comme j'utilise des réalités utilitaires. Mon ami est une substance, une personne que je respecte infiniment. Qu'est-ce que la découverte de la substance et de l'acte me fait connaître de mon ami? Qu'il est une personne et que mon amour pour lui, et de mon amour pour lui, que je ne pouvais pas saisir au niveau de la philosophie pratique. C'est évident. Au niveau de la philosophie pratique, purement pratique, sans métaphysique, je ne saisis pas la personne. Comme personne, dans son autonomie personnelle. Dans sa dimension de recherche de la vérité, dans sa capacité d'être un avec moi, comme ami. Et il y a une profondeur, grâce à la métaphysique, sur l'amour d'amitié, qui est toute nouvelle. Vous avez parlé du repos qu'on peut trouver auprès de l'ami, parce qu'il est une personne. Est-ce que vous pouvez préciser encore de quel repos il s'agit? D'un repos personnel avec une personne? Peut-on le comparer au repos du Dieu créateur? Oui, en maintenant la différence infinie qui existe entre une créature et le créateur. C'est très vrai que l'acte d'adoration est un repos dans le cœur du créateur. Et le choix amical me permet un repos auprès de mon ami. Quand je suis dans les difficultés, quand je suis dans la lutte, parce qu'il est un autre moi-même. Et quand je suis dans la lutte, mon « je suis » s'efface. Et j'ai besoin de retrouver mon « je suis » chez l'ami. Alors, je continue. Troisième dimension de la personne, l'amour d'amitié. Et c'est très important, c'est pour ça que c'est bien ces questions, pour voir le lien entre métaphysique et éthique. C'est par l'amour d'amitié. Puisque l'amour d'amitié est fin. Et la métaphysique est fin. Donc je n'ai pas saisi ce que c'est que l'amour d'amitié. Je risque toujours de relativiser l'éthique au niveau moral des vertus. Alors là, le lien avec la métaphysique est beaucoup plus lointain. Tandis que par l'ami, le lien avec la métaphysique est immédiat, mais il existe vraiment. Parce que l'amour d'amitié regarde l'ami comme une certaine fin, donc une certaine bonté absolue. Pas absolument, mais d'une certaine manière. L'amour d'amitié va donc me révéler, et c'est ça qui est important, va donc me révéler la capacité d'aimer une personne et de l'aimer vraiment autant que je puis aimer. Je sais que mon amour n'est pas la réalité substantielle, que mon amour et que mon choix amical demeure intentionnel et n'est pas la réalité substantielle, mais que cet amour d'amitié tend vers cela par l'ami que j'aime comme ami, comme personne, donc comme ayant une certaine bonté absolue. L'amour d'amitié me révèle à moi-même la capacité d'aimer une personne, de choisir une personne comme amie, et donc de coopérer avec cette personne pour atteindre ma fin ultime, Dieu, dans la recherche de la vérité. L'ami n'a pas découvert son ami comme personne capable de rechercher la vérité. Mon amour d'amitié reste imparfait. Et donc, mon amour d'amitié n'est pas au niveau de ma personne. Que l'amour d'amitié demeure passionnel. J'aime cette personne parce qu'elle est agréable, tellement agréable. C'est reposant. Dès que je suis là, je suis en sécurité. C'est reposant. Et puis c'est agréable. Ça vaut la même sensibilité. Alors il y a un petit frisson qui passe. Il est évident que cette amitié-là ne fait pas partie de ma personne. Mais elle dispose essentielle à ma personnalité. Autrement, l'amour d'amitié est là en attente. Parce que c'est un amour d'amitié qui n'est pas parfait. Alors, voyez, ça qui est intéressant, c'est quand l'éthique touche la fin, que l'éthique est reliée à la métaphysique. Tant que l'éthique demeure au niveau moral des moyens en vue de la fin, elle ne touche pas immédiatement la métaphysique. Mais quand l'éthique touche la fin, alors à ce moment-là, je passe de l'éthique à la métaphysique. Et je vois que l'amour d'amitié, parce qu'il touche l'ami comme fin, existant pour moi comme fin, existant comme celui qui est un avec moi dans la recherche de la vérité, qui est un avec moi dans sa finalité, la recherche de la vérité, et la finalité dans ce qu'elle a de plus noble et de plus grand. À ce moment-là, mon amour d'amitié fait partie de mon développement personnel essentiel. Je ne suis pas seul à rechercher la vérité. Nous sommes deux à rechercher la vérité. Et dans cette recherche de la vérité, étant deux, notre recherche de la vérité va beaucoup plus vite. Parce que nous sommes tous un peu univoques. Alors nous cherchons la vérité dans un sens. Puis tout d'un coup, un obstacle. On ne voit pas. On dit ça à son ami. Lui a une autre voix. Ah, mais tu ne vois pas. Prends l'autre chemin. Et l'obstacle tombe. Ça arrive constamment. Quand vous exposez quelque chose dans votre recherche de la vérité, vous l'exposez. Et comme vous êtes un peu branlant dans cette recherche de la vérité, vous aimez mieux qu'il n'y ait qu'un ami ou deux amis. Et qu'on soit un tout petit nombre recherché. Parce que ce serait difficile de dire ça devant tout le monde. Je serais obligé peut-être de dire, voyez, je m'arrête là. Je ne peux pas aller plus loin.